à toutes et à tous. Vous êtes sur Offensive Sonore, l'émission mensuelle du groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille, consacrée aux luttes et à la rencontre avec des militants et militantes et des chercheurs et chercheuses engagés. Depuis 5 ans déjà, le groupe Offensive Libertaire et Sociale édite tous les trimestres la revue Offensive. Au travers d'un dossier thématique, chaque numéro se propose de participer à l'élaboration de la critique quotidienne et radicale de la société d'aujourd'hui. Ce mois-ci, le numéro 19 sorti en kiosque est consacré à l'antimilitarisation.
Bien quadrillé, parsemé de bases militaires avec ses zones de guerre et ses zones pacifiées. Dans les unes, les armes parlent et le sang coule. Dans les autres, l'ordre militaro-sécuritaire fait régner la paix sur le terreau de la peur. La généralisation de la paranoïa militaire et la culture qui l'accompagne, esthétique du treillis, de la voiture tank, culte de la violence et de l'hypertechnologie, sont symptomatiques d'une société militarisée. Dans la guerre, c'est toujours le peuple qui paie. Soit par l'impôt qui finance l'armée, soit en nature, tuerie, viol, famine, déplacement de population, destruction massive, etc., etc. Une fois la paix revenue, restent de nombreuses séquelles. Corps mutilés, esprits traumatisés, pays en ruine, territoires pollués et parsemés de mines. Au-delà de la condamnation morale du phénomène guerrier, une vision politique révolutionnaire ne peut faire l'économie d'une critique globale du système qui produit la guerre. Depuis le 11 septembre 2001, le complexe militaro-industriel s'est transformé. La privatisation de l'armée et la course renouvelée aux armements et à la technologie ont donné naissance au système industriel militaro-sécuritaire. Face à cette situation, les résistances à la guerre, bien que peu médiatisées, se poursuivent un petit peu partout dans le monde. Les populations autour des bases militaires, les femmes pacifistes luttant contre les exactions des hommes en armes, les objecteurs qui refusent encore et toujours la militarisation de la société, tous et toutes luttent contre l'ordre militaire. L'antimilitarisme libertaire reste d'actualité en nous rappelant que la raison d'être de l'appareil militaire est la défense du pouvoir de l'État et des intérêts des classes dominantes. Il est grand temps de nous réapproprier les idées antimilitaristes pour nourrir nos analyses et nos luttes dans des domaines aussi différents que l'opposition à l'exploitation néocoloniale, à l'emprise technologique, au saccage de la planète et aux violences patriarcales. Par ailleurs, l'antimilitarisme conduit à une critique de l'État par laquelle il est nécessaire de passer pour qu'enfin cessent les guerres et que les oppresseurs nous foutent enfin la paix.
Offensive Sonore reçoit aujourd'hui Hervé, militant libertaire marseillais de longue date, qui a été à la création, avec de nombreux autres antimilitaristes, du réseau Information Réfractaire, le RIR, en 1994. Ce réseau a regroupé nombre d'objecteurs, d'insoumis, de déserteurs et de personnes solidaires de ces réfractaires. À travers le RIR, une critique révolutionnaire de la société a été menée. Elle se poursuit aujourd'hui notamment à travers la participation d'Hervé au journal CQFD et à certaines chroniques, mais également par sa contribution au dossier numéro 19 de la revue Offensive, consacré ce trimestre aussi à l'antimilitarisation.
Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. L'actualité est florissante aujourd'hui sur les boires et déboires militaro-sécuritaires. On a vu l'affaire de Carcassonne avec des bidas pas très regardants sur la manière de charger les armes. Les boys se font descendre en Afghanistan, etc. etc. On voit de plus en plus le lien qu'on peut entretenir le lobby industriel militaire avec le lobby médiatique. Quelle est aujourd'hui l'actualité de la guerre, du système de la guerre? Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui les conflits dans le monde et la militarisation de la société?
Bonjour, très, très vaste question. Donc pour apporter quelques éléments, à mon avis, sur le fond, les guerres, ça a guère changé depuis, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avec... Une importance très importante de la mécanisation, de la haute technologie, de tout ce qui est aviation et même depuis de l'espace. Donc actuellement, on est dans la continuité de ce phénomène et en même temps, on voit dans l'actualité, que ce soit en Irak ou en Afghanistan ou dans d'autres endroits aussi, mais ces deux cas sont assez frappants. C'est aussi que la guerre à l'ancienne, du style guérilla avec un seul... un fusil ou une Kalachnikov, ça existe aussi toujours. On n'est pas encore dans la guerre des étoiles, les trucs ultra futuristes qu'on pensait, par exemple dans les années 80, les années Reagan, qu'on pensait qu'il allait être l'avenir du début du 21e siècle. Même si ça existe, même si l'espace est militarisé, s'ils font des recherches sur les lasers, sur des trucs qui font vraiment science-fiction, pour l'instant la guerre c'est encore le entre, si on prend la guerre en Irak, qui est donc l'une des guerres de ce moment, et la guerre du Golfe en 91, il y a fondamentalement pas beaucoup de changements. Quoi.
On assisterait presque à un mouvement paradoxal qui serait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, s'est constitué comme ce qu'on a appelé un complexe industriel et militaire qui a amené de plus en plus de sophistication dans la confection de l'armement et avec de plus en plus de dépenses et en même temps à la création petit à petit aussi d'un marché spécifique pour écouler et permanent qui est le système des guerres, parce que 45 marquerait une rupture avec avant des industries de guerre qui se reconvertissaient en temps de paix en industrie, on va dire, plutôt traditionnelle. Et donc depuis 1945, une industrie permanente, une industrie militaire.
Oui, il y a ça. Enfin, c'est vrai que moi, je pense qu'un des trucs qui est important quand même, c'est de voir que pour la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même à ce moment-là que les armées, hein, parce que c'est un phénomène qui s'est passé dans plusieurs pays, on fait même basse sur tout ce qui était la science, quoi. Avant, dans l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 20-30, c'était pas comme ça, quoi. Mais à partir de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, vraiment, la science s'est mise au service de l'armement, quoi, et de la guerre. Et après, une fois que la guerre est finie, c'est resté un état de fait. Pour un pays comme les États-Unis, un besoin permanent de conflits, pas forcément de guerre ouverte, hein, mais d'entretenir des tensions en permanence pour qu'ils puissent continuer à produire et à vendre des armes et tout, quoi. Effectivement, après, je pense pas que ce soit le cas pour des pays comme la France qui n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers et de se lancer dans ce genre de trucs. Et c'est une tendance naturelle à vouloir, pour un organisme comme ça, fait, système industriel militaro-sécuritaire, c'est des conglomérats de divers types d'intérêts, privés, publics, industriels, financiers et idéologiques aussi, mais qui finissent par former une sorte de bureaucratie ou quoi, et comme tout genre d'organisme un peu de ce genre, le but c'est de se préserver, de continuer à exister, quoi. Alors qu'à l'origine, soi-disant, la justification, c'est juste des outils au service des politiques, des pays, des États, pour mener à bien une politique étrangère, quoi. Mais d'outils, ça devient en fait le moteur de la politique étrangère des pays, quoi.
C'est le moteur de la politique étrangère, mais c'est aussi un vecteur de croissance important au niveau économique, parce que c'est justement ces conglomérats-là cherchent des marchés pour justement écouler toute cette production-là, donc entretiennent des tensions, ou en tout cas cherchent à écouler la marchandise.
Mm-hmm. Oui.
Tout ce que tu dis, oui. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut justement faire le lien avec le fait que les... Une thèse qui veut que justement l'investissement assez important des industriels de l'armement dans les médias, hein, on pense au groupe Lagardère, choses comme ça, veut justement que, avec la transformation de l'ennemi en terroriste permanent, etc., ou en guerre humanitaire, etc., tout un tas de nouveaux conflits qui ont une forte teneur idéologique en termes de. En tout cas de description. Il y a une thèse qui veut justement que le fait de pouvoir créer de nouveaux débouchés, etc., amener les industriels à investir dans l'industrie médiatique pour pouvoir également peser sur une vision idéologique du conflit et le fait de pouvoir étendre encore un peu la possibilité d'aller au combat, finalement, de justifier la production d'armes et l'organisation de conflits.
Oui, ben en France, c'est clair. Après, pour d'autres pays, ça se passe pas forcément pareil. Hein. Aux États-Unis, les industries d'armement n'ont pas besoin d'investir dans les médias, puisque les médias, ils sont déjà bellicistes. Donc, et puis, c'est ça aussi aux États-Unis, c'est que les propriétaires des médias, c'est la bourse qui détient aussi bien les industries de l'armement que les médias, quoi. Après, c'est des actionnaires anonymes, quoi. Mais donc, leurs intérêts sont, de toute façon, c'est pas aussi direct et clair qu'en France, quoi. En France, il reste des traditions étatiques qui font que bon, les choses se passent un peu plus visiblement qu'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est utile, quoi, pour ces industries de l'armement. Mais en même temps, moi, je pense qu'ils détiendraient pas les médias. Ça changerait pas grand-chose, puisque les médias dominants, les médias style Le Monde, par exemple, même Libé à sa façon... ils font que défendre un peu le point de vue officiel, quoi. Donc, quand on voit là, ce qui s'est passé pendant la guerre du Kosovo en 99, Libé avait pas, Lagardère n'avait pas encore investi, enfin, il a une part assez faible dans Libération maintenant. Je crois pas que c'était le cas à l'époque. Pourtant, ils ont une couverture absolument dégueulasse. Il y a quand même, à mon avis, une solidarité de classe entre ces gens qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'une intervention directe d'un actionnaire qui décroche le téléphone et qui dit « ouais, vous allez m'écrire un article comme ça ». Ils participent du même monde, du même langage et ils ont grosso modo les mêmes intérêts, quoi.
Et justement, une manière d'étendre les marchés de la militarisation de la société, ça a été justement de passer du purement militaire au sécuritaire également. Alors comment, toi, tu situerais justement ce passage-là? Qu'est-ce que ça recouvre exactement comme réalité? Parce qu'on, là, on dépasse le simple conflit armé quand on parle de sécuritaire. Et les industriels de l'armement sont aussi sur ce créneau-là.
Le truc sur le terrorisme et tout, c'est pas nouveau, c'est l'ennemi intérieur, quoi. C'est pendant la guerre froide, c'est bonjour, ça y allait, l'ennemi intérieur. À part qu'à l'époque, c'était laissé à la police, et en cas de gros truc, bon, c'est l'armée qui intervenait. En cas de révolution, ils se posaient pas la question, hein. Mais non, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que tout le sécuritaire, ça sert à vraiment à un marché énorme qui est en plein développement et qui effectivement a été complètement dominé par les entreprises de l'armement, quoi, qui étaient bien placées pour dominer ce marché-là, quoi. C'est-à-dire quand il s'est développé dans les années 90 et surtout après le 11 septembre 2001, il s'est créé des start-up et tout ça, des trucs comme ça dans le secteur, qui ont été rapidement racheté par des grands groupes de l'armement qui voulaient pas rater ce train de profit faramineux. Donc c'est un vieux truc, l'ennemi intérieur, ça existe depuis assez longtemps, hein, la cinquième colonne, enfin, ça, suivant les périodes, ça prend toujours des noms différents. Avant c'était plutôt le rouge, ou même l'anarchiste à la fin du 19e siècle, quoi. Bon, maintenant c'est plutôt l'islamiste, enfin, suivant les... Ça s'adapte aux circonstances. Aujourd'hui, le rouge et le couteau entre les dents, ça fait plus peur à grand monde. Tu vois, Marie-Georges Buffet justifier des dépenses d'armement énormes, non, c'est pas possible. Par contre, l'islamisme, oui, ça justifie grâce à toute une propagande, et puis bon, aussi de trucs réels, quoi, de guerres réelles et de véritables conflits, quoi. Hein.
Mais disons qu'à la fois au niveau intérieur, ça justifie des dépenses de contrôle et des investissements dans des technologies de contrôle, beaucoup. Mmh. Hein, notamment, on pourra parler peut-être des drones qui sont produits pour, soi-disant, surveiller derrière les lignes ennemies, mais qui en fait sont de plus en plus utilisés également sur la sécurité intérieure. On va avoir quelques exemples. Mais c'est donc ça, il y a ce côté sécurité intérieure, mais également, on pourra peut-être aussi parler après de... une forme de privatisation aussi de la guerre extérieure, c'est-à-dire que le complexe sécuritaire va amener la création de milices ou de groupes de mercenariat, en fait, au service des États, qui vont aussi être des débouchés importants, et une autre forme de militarisation des relations sociales. Donc sur la question intérieure, sur la technologie de contrôle, on en est où là actuellement?
Ben c'est un peu ce que tu dis, hein, le cas des drones, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est des moyens développés pour l'armée qui sont mis à disposition de tâches de police, quoi. Un drone, c'est un truc qui est pour surveiller le champ de bataille, quoi.
C'est un petit avion.
Ouais, c'est un avion sans pilote, donc qui vole, qui est une grande... qui peut rester longtemps en l'air et qui est bourré d'électronique, de caméras, de trucs qui écoutent, etc. Donc qui permet d'avoir une image, des images du champ de bataille, donc les gens au quartier général, ils ont ça, ils peuvent dire, comme on voit dans les films de la Seconde Guerre mondiale, où il y a un tableau avec une carte, où ils sont là, ils déplacent des petites épingles avec un drapeau au bout. Bon, là, maintenant, c'est en temps réel, avec des images qui arrivent sur plein d'écrans. Donc, c'est un truc important pour voir ce qui se passe sur le champ de bataille, pouvoir réagir rapidement et tout. Et donc, maintenant, de plus en plus, ça sert au maintien de l'ordre. Donc ça avait été utilisé en France, je crois une des toutes premières utilisations, c'était en 2003, le sommet d'Évian, le VAG, donc les manifestantes qui étaient allées pour protester contre ce sommet avaient en permanence des drones dans l'air qui filmaient. Et comme ça, la police, ils savaient exactement ce qui se passait et tout ça, quoi. Parce que bon, c'est des trucs très précis, hein. On peut voir bien, pas, peut-être pas lire au-dessus de l'épaule de quelqu'un, mais ça marche bien. Et là, j'ai vu ça rapidement, là, tout à l'heure, que là, pour la venue du pape, là, qui arrive, je crois, vendredi, le 12, ils ont prévu de mettre un ou deux drones à disposition pour surveiller les méchants athées enragés qui risquent de venir le gêner. Donc effectivement, c'est un truc utilisé, même en France, pas systématiquement, mais qui commence à l'être, quoi. Voilà, en sachant que ça pose de gros problèmes, parce que y a des lignes, comment on appelle ça, des couloirs aériens, donc ça peut poser des accidents d'avion, ça pose de vrais problèmes de sécurité qui sont pas un problème quand c'est sur le champ de bataille, quoi. Le champ de bataille, bon, il tombe, il y a quelqu'un dessous, mais c'est la guerre, quoi. Alors que dans ce genre d'utilisation, ça peut poser des problèmes.
Donc encore une fois, ce sont les civils qui vont payer.
Ah oui, de toute façon, payer avec leur argent et puis ensuite payer avec les risques que ça, ce genre de truc. Et surtout, donc les mauvais citoyens, les ennemis de l'intérieur, qui seront donc encore plus surveillés, donc plus faciles à retrouver, etc., quoi. Donc ça, c'est typique de ces moyens militaires qui sont mis à la disposition de la police.
Il y a aussi donc un nouveau débouché donc, pour les industries militaires qui sont à travers la privatisation des forces armées. Donc ça, c'est autre chose. On a beaucoup entendu parler au niveau de l'Irak, avec pas mal de scandales autour d'une société américaine qui s'appelle comment, je sais plus...
Blackwater.
Voilà. De quoi il s'agit là exactement?
Pour ce qui est de Blackwater, c'est l'entreprise typique de mercenariat, mais moderne, donc qui se cache sous le paravent de la sécurité, donc grosso modo des sortes de vigiles un peu mieux armés, enfin, bon, c'est des armes de guerre. Hein. Blackwater, il commence même à avoir des hélicoptères et il demande avoir des moyens lourds, donc possibilité d'avoir de l'artillerie ou des blindés, quoi. Ce qui n'est pas encore le cas, mais ça viendra certainement. Là, c'est un truc qui s'est beaucoup développé à partir des années 80, mais partout, hein, on assiste à la privatisation des fonctions étatiques. Bon, aux États-Unis, moins, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nationalisation. Enfin, l'État fédéral avait moins de fonctions que dans les pays d'Europe. Comme la poste, comme les transports, comme les télécommunications et comme les polices, l'armée aussi donc externalise certains trucs. Alors, c'est très avancé dans les domaines techniques, hein, surtout la maintenance, plein de la mécanique, tout ça, mais aussi donc des sociétés de mercenariat qui se sont structurées, qui ont pris de l'ampleur. Et Blackwater, je crois assez récent, hein, ça n'a même pas 10 ans, je crois, hein, a pris un développement fulgurant grâce aux guerres de Bush, quoi, hein, c'est clair. Quoi.
Donc il est permis aujourd'hui de sous-traiter une partie du conflit à des sociétés privées.
Oui.
Et qui agissent sous les ordres de qui, alors, finalement?
Ah ben après, tout dépend du patron, hein, c'est celui qui paye. Donc en Irak, c'est les États-Unis. Les mêmes sociétés, alors, je ne sais pas si c'est Blackwater ou d'autres sociétés de mercenariat, par exemple, étaient présentes en Géorgie pour entraîner des soldats géorgiens, en particulier les commandos. Donc là, c'est le gouvernement géorgien qui est le donneur d'ordre, qui donne son avis, quoi. Et il y a un super avantage, pour les États-Unis en particulier, c'est que après tu peux dire c'est pas nous, c'est une société américaine, ouais, certes, mais c'est pas le gouvernement, donc
oui, y compris quelles que soient les exactions finalement,
voilà, ça permet de se disculper d'un truc qui en fait est une politique d'État, mais menée par d'autres, par des moyens privés. Voilà, donc c'est un phénomène quand même vachement anglo-saxon, hein. La France, pour l'instant, elle en est encore aux mercenaires à la papa des années 70, quoi.
Juste pour revenir un peu sur le cas français, et puis pour nous ramener un petit peu à notre sujet, l'armée aussi a changé en France, puisqu'on a, aujourd'hui une armée professionnelle, ou avant on avait une armée de conscription, et donc ce qui a... Qu'est-ce que ça a changé, ça, au niveau de cette force-là, pour l'État et pour les citoyens?
Alors, avant il y avait deux trucs. Hein. Il y avait l'armée de conscription et l'armée professionnelle. Elle a toujours existé, l'armée professionnelle. Donc, on a juste enlevé la conscription. Et donc, oui, maintenant, c'est un truc très différent. Et c'est... l'armée de type occidental de pointe, quoi, c'est-à-dire celle qui s'est développée surtout après la fin de l'URSS et du bloc soviétique. Alors les Américains, ils avaient commencé avant, les Anglais aussi, mais ça s'est vraiment répandu en Europe continentale après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire maintenant les pays occidentaux, on a gagné. Le monde est à nous, on peut faire ce qu'on veut, on peut défendre nos intérêts partout sans que personne nous gêne. Et donc on n'a plus besoin d'armées de masse avec des chars d'assaut, de l'artillerie lourde, des trucs capables de résister aux divisions blindées soviétiques, mais super difficiles à bouger rapidement, quoi. Un char d'assaut, ça pèse dans les 60 tonnes. C'est, pour le déplacer jusqu'en Afghanistan, c'est pas de la rigolade. Donc c'est une armée plus petite, plus flexible, plus mobile. Voilà, donc qui repose vachement sur la rapidité des transports, énormément sur tout ce qui est technologie, les missiles de croisière, les trucs qui permettent des frappes, donc les fameuses frappes chirurgicales. On tire un missile à 300 km d'un sous-marin et ça y va, quoi. Et avec des forces de choc, donc il faut toujours des fantassins, ça, une guerre sans fantassins, ça existe qu'au cinéma. Et donc des troupes d'élite, des parachutistes, des commandos de la marine, des trucs comme ça, qui sont capables d'aller sur le terrain, de frapper une cible et de repartir, quoi. Voilà. C'est un peu c'est une logique de corps expéditionnaire qu'il y a derrière cette armée de professionnels, quoi. Là encore, c'est un peu le retour au 19e siècle où ces corps expéditionnaires, ils allaient imposer au Japon, en Afrique, en Amérique, les desiderata des quelques grandes puissances capitalistes de l'époque. Aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes grandes puissances capitalistes de l'époque, mais avec les moyens de la technologie, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus instantané.
Il y a eu une logique coloniale, là on est dans une logique impériale toujours, donc de défense des zones d'influence, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir quand même que la question militaire et le militarisme est intimement lié aux questions impérialistes, finalement.
Ah oui, oui.
Ça, c'est vraiment le fond de la question.
On a, dans un sens bien orwellien qu'on connaît de nos sociétés, on a rebaptisé le ministère de la guerre, le ministère de la défense, alors que, je sais pas, attaquer l'Afghanistan, quoi, c'est défendre la France, quoi. Je veux dire, au contraire, c'est la mettre en danger, puisque tu vas attaquer des gens lointains qui t'ont pas attaqué. Les gens vont pas être contents, ils vont riposter, quoi. Tu vois, eux ils se défendent, quoi. Donc ouais, c'est bien cette logique là du fait ils se sont dit il y a plus l'URSS pour nous gêner, maintenant on y va et on impose notre vision du monde aux autres, quoi, et nos intérêts, quoi. Et l'armée française, donc elle a eu du mal à prendre ce tournant là à cause de toute l'idéologie franco-française, née de la République et compagnie, sur l'armée du peuple et tout. Mais bon, ils l'ont fait finalement parce que c'était une nécessité du moment, et donc il fallait pas s'accrocher à des vieilles lunes pour rater le train de l'impérialisme technologique. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais... Ouais. Donc voilà, malgré quelques pas mal de gens qui ont pleuré la fin de la conscription, ben, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que dans les classes dirigeantes, ils avaient bien compris que c'était une nécessité. Voilà. Et toujours pour l'armée française et dans ce cadre-là, il y a le nouveau plan, là, la nouvelle stratégie de Sarkozy, là, qui est donc sortie là, dans l'été, suite à un livre blanc, je ne sais pas, j'ai pas encore bien lu, donc je ne pourrais pas en dire plus, mais à mon avis, ça va encore dans ce sens. Ils ferment les bases qui se trouvaient dans l'est de la France. C'était les bases de chars d'assaut, d'artillerie lourde qui étaient censées bloquer avant les Allemands et depuis les méchants soviétiques. Et donc, c'est vrai que ça n'a plus aucun intérêt. Donc, ils les ferment. Par contre, les bases qu'il y a dans la région ici, enfin, dans tout le sud de la France, ça, il est hors de question de les fermer, quoi.
Et ça, justement, quelque part, l'armée de conscription, comme tu disais, l'armée du peuple, entre guillemets, ça a énormément marqué l'histoire de l'antimilitarisme, hein, pour revenir à notre sujet un peu, le sujet central, à savoir que le pacifisme et l'antimilitarisme, ce serait intéressant de faire un petit peu un historique, remonte quand même à cette époque où justement il y avait une création d'armées de masse avec des levées importantes de population pour aller au front, etc. Et on peut se demander justement si le fait de ce passage-là à une guerre plus technologique, avec moins de monde, plus de professionnels, etc., ça a pu, la question antimilitariste s'est diluée aussi petit à petit avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'on parle moins d'antimilitarisme maintenant, peut-être qu'à une certaine époque où, justement, il y avait toute la question des réfractaires était importante, réfractaires à l'armée, être pacifiste, être vraiment lutter contre les conflits, etc., être internationaliste à une époque aussi pour montrer que les intérêts des prolétaires, travailleurs, etc., n'étaient pas ceux des dirigeants et refusaient le combat. Donc, est-ce que tout ça a changé aussi? L'antimilitarisme a une histoire et l'antimilitarisme a changé, j'imagine.
Oui, en France, cela, c'est vraiment un truc spécifique en France, même si ça peut exister dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est le cas français. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où il y a une longue tradition d'armée professionnelle. Donc, en France, c'est clair que, à partir d'un moment, l'antimilitarisme, le grand moment de l'antimilitarisme français, il est passé depuis très 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 longtemps. Et donc après, c'est disons dans les années à partir de la guerre d'Algérie, grosso modo, c'est un peu refait, lancer un truc. Le mouvement s'est focalisé sur la conscription, quoi. C'est plus revenu comme c'était au début du XXe siècle, un antimilitarisme sur tous les aspects du militarisme, parce qu'à l'époque il était porté par des mouvements de masse, hein, la CGT de l'époque, le mouvement anarchiste qui était assez important à cette époque-là. Au début des années 20, cette tradition d'antimilitarisme de masse existait encore à travers le Parti communiste naissant, quoi, qui a mené des vraies campagnes antimilitariste assez costaud, et en particulier anti-guerre, contre l'occupation de la Ruhr par les armées françaises, et la lutte contre la guerre du Rif au Maroc dans les années 20. Donc le Parti communiste était à la pointe, a fait vraiment un gros travail sur ça. Puis après, quand Staline a dit bon, c'est fini l'antimilitarisme, maintenant pour les intérêts de l'URSS il faut que on s'allie avec la France, donc il faut que vous arrêtez de critiquer l'armée. Donc à partir de là, le Parti communiste et la CGT, qui avait été stalinisée en partie, elle est devenue nationaliste. Donc après, il ne restait plus que des forces assez minuscules, quoi. Donc les anarchistes essentiellement, et des courants chrétiens divers et variés, assez peu importants en France, comme les Quakers, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, après en 68, dans toutes ces années-là, ça a remis un petit coup, mais un petit bon coup, quoi, quand même. Il y a du monde qui est revenu un peu sur cette position, mais malgré tout, c'est mon avis aussi, hein, je dis pas que. c'est juste un avis personnel, hein, que ben voilà, ça s'est un peu trop focalisé sur la conscription, et en dehors de quelques luttes exemplaires comme le Larzac et quelques autres dans ce genre-là, Le mouvement, à mon avis, s'est enlisé en France dans la lutte de la conscription, dans la mesure où c'était très, très difficile de combattre le militarisme de face, étant le peu de force qu'il y avait qui voulait se mettre sur ce combat-là. Après, sur le combat pacifique, pacifiste, c'était déjà plus simple, mais de réunir plus de monde, tu vois.
La différence entre pacifisme et antimilitarisme, c'est quoi? Le pacifisme, c'est être anti-guerre.
Voilà.
Et l'antimilitarisme, par contre, c'est combattre la militarisation de la société sous tous ses aspects, alors. C'est pas uniquement la conscription, alors.
On peut être pacifiste et penser qu'on a quand même besoin d'une armée pour se défendre dans des certains cas. Et alors qu'antimilitariste, c'est soit contre toute forme d'armée. C'est les pacifistes intégraux, les non-violents. Et dans le courant antimilitariste plus issu du mouvement ouvrier, anarchiste, marxiste, révolutionnaire, on n'est pas contre une forme de lutte armée, mais en tout cas pas sous la forme d'une armée, parce qu'elle implique une forme de l'obéissance, la hiérarchie, le ceci, le cela, qui fait que c'est contre ce qu'on pense, quoi. Bon, après, les léninistes, par contre, ils sont prêts, il n'y a pas de problème. Ça ressemble un peu à leur mode de fonctionnement. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est une armée du peuple. C'est au service du peuple, pas du capital.
Voilà, mais on pourrait dire que les antimilitaristes révolutionnaires, dont font partie les anarchistes, sont, disons, la frange anti-autoritaire. C'est sur la question de l'anti-autoritarisme qu'ils appuient pour critiquer et revendiquer
la tendance vraiment totalement non-violente, les anarchistes non-violents ont toujours existé, et donc eux ils sont pour des formes de lutte du style Gandhi, du style Martin Luther King, c'est des trucs de masse, par désobéissance civile et compagnie. Un courant qui existe toujours, qui est représenté par l'Union pacifiste, donc qui édite un mensuel du même nom, et qui est sous-titré, j'ai plus le sous-titre, mais si on me dit que pour arriver au monde meilleur, j'ai besoin de tuer des gens, moi je préfère pas arriver au monde meilleur, un truc comme ça. Quoi. Voilà, ça c'est les anarchistes
non-violents,
antimilitaristes, pacifistes, mais la majorité des antimilitaristes anti-autoritaires, ils sont pas contre une forme de lutte armée pour se défendre, comme ça s'est passé plus d'une fois dans l'histoire, voilà. D'accord. Donc c'est effectivement là la critique, elle est donc à quoi ça sert l'armée, à défendre les intérêts des classes dominantes, et sous la forme de l'organisation qu'elle prend, c'est-à-dire les officiers ils décident, les ouvriers, les soldats ils appliquent comme dans une usine, quoi. Le patron il décide, l'ouvrier il applique.
Comme à l'école.
Ouais, mais bon.
Non, mais c'est quand la critique anti-autoritaire, libertaire notamment, était de dire qu'il y avait des grands vecteurs de normalisation de la société qui étaient l'armée, enfin qui sont l'armée et l'école. Et notamment, c'est pour ça qu'aussi, on va revenir sur la question de la conscription, justement que c'était une grosse critique de la conscription, parce que c'était une manière d'intégrer et d'assimiler, d'agréger les populations, la population française, la jeunesse, etc., dans des valeurs, des modes de fonctionnement, etc., grâce au travers du service, ce qu'on appelle le service national, le service militaire. Donc, et notamment, c'était un des outils d'unification de la République, au même titre que l'école, normaliser les valeurs, normaliser les langues, enfin la langue aussi, puisque c'est aussi le lieu où on a beaucoup appris à écrire et à parler le français contre les parlers locaux. Enfin voilà, pour revenir donc en 68, et notamment dans la suite de la guerre d'Algérie, donc il y a quand même un regain de l'antimilitarisme en France assez important. Antimilitarisme donc du coup plutôt, on va dire, révolutionnaire, c'est-à-dire sous sa forme de critique de l'autoritarisme, etc. Mais donc il va prendre quelle forme de revendications et d'actions?
Des grandes luttes, c'est la lutte pour le statut d'objection de conscience, donc de la lutte contre la conscription, qui quand même, ça va être le gros morceau, quoi. Et après, donc, des luttes, pas globales, mais contre tel ou tel aspect, le LARZAC, par exemple, l'extension d'un camp militaire, contre les armes nucléaires, contre les expéditions militaires en Afrique en particulier. Après, il y a aussi toute une lutte mais qui est plus culturel à travers des trucs comme Charlie Hebdo, des, enfin, tu vois, d'une critique acerbe et acide du militarisme et de son esprit. Enfin, donc une culture à travers les livres, les journaux, le cinéma, la musique, qui a quand même été fort à ce moment-là. Hein. Mais il n'y a pas eu de mouvement, de grand mouvement unifié, capable capable même de s'attaquer à tous les aspects de la question. Hein. Donc à côté de ça, il y a eu aussi des luttes qu'on ne peut pas forcément ranger dans l'antimilitarisme, même enfin, si c'est très proche. C'est par exemple la lutte des comités de soldats. Donc c'est une sorte de syndicalisme au sein de l'armée.
À quelle époque ça?
Ça c'est la seconde moitié des années 70. Donc il a pris une grande ampleur à la fin des années 70, il y a eu plein de comités de soldats. Donc là c'était plus les léninistes qui étaient à la...
Les appelés ou c'était les soldats?
C'était des appelés, ouais, les appelés. Qui étaient à la pointe puisque c'était une de leurs méthodes d'action, c'est comme ça qu'ils avaient fait dans les années 20 le Parti communiste français. Quoi. Et voilà, mais c'était un truc qui était... plus dans la tradition, donc léniniste.
Oui, l'armée du peuple.
L'armée du peuple et tout ça, quoi. Et donc, ça, c'était un mouvement important. Hein. Voilà, il y a eu plusieurs luttes comme ça, mais effectivement, vu la diversité des tendances politiques de cette époque, où beaucoup de groupes qui passaient plus son temps à taper sur le voisin pour savoir qui c'était le plus pur, tu vois, c'était difficile d'unifier, même dans le mouvement objecteur, il y a eu plusieurs mouvements, hein, dans les années 70, ils ne sont pas arrivés à fusionner pour des divergences sur les tactiques plus que sur le fond idéologique.
Il y a eu des campagnes de désertion dans l'Hexagone?
Dans les années 70, je peux pas dire, je sais pas. Il y a eu pendant la guerre d'Algérie, oui, mais là c'était vachement lié au contexte de la guerre. Il y a eu un mouvement pacifiste important, hein. C'est vrai, pendant la guerre d'Algérie, qui a été marginal, hein. Ça représentait peu par rapport à la population totale, mais quelque chose qui a vraiment pesé sur les événements. Quoi, hein. De désertion, important, de gens qui fuient en Suisse, voire plus loin, les plus radicaux, c'était carrément qui sont passés à l'ennemi, hein, des soldats français qui sont rentrés qui ont monté des maquis aux côtés du FLN pour combattre l'armée française. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. En plus tous les passeurs, les porteurs de valises, plus des mouvements en 56, il y a eu des vrais mouvements de masse spontanée. Quand le gouvernement de Guy Mollet, je crois, donc il venait d'être élu, c'était la SFIO, c'était la gauche, il venait d'être élu sur le programme de paix en Algérie et il envoie le contingent en Algérie, quoi. Et donc il y a eu des grands mouvements de masse où quand les soldats les conscrits ils allaient à la gare pour prendre le train, partir à Marseille et s'embarquer sur le bateau, t'avais toutes les familles les amis qui se mettaient sur la voie, qui bloquaient les trains, et pendant un ou deux mois il y a eu un grand mouvement de masse, mais qui a pas tenu dans la durée, qui a pas empêché le contingent de partir. Donc là aussi il y a eu beaucoup d'initiatives, là aussi c'est jamais un mouvement unifié très, très, très puissant qui organise tout ça, c'est des groupes chacun de son côté, du fait que bah, pareil, il y avait des chrétiens, il y avait des communistes, il y avait des anarchistes, donc difficile de travailler toujours ensemble. Quoi.
Là on est plus dans la critique de la guerre que de l'armée finalement, un peu comme sur le port de Marseille, il y a eu aussi des blocages, c'était pour la guerre d'Indochine.
Voilà, je crois, Parti communiste, la CGT en 46-47 a empêché des bateaux d'être chargés d'armes pour l'Indochine.
C'est ça, mais ça pareil, on est plus dans le pacifisme que dans la critique de l'armée, parce qu'on, ni le PC ni la CGT ne sont connus pour être des structures non hiérarchiques et anti-autoritaires.
Oui, à cette époque.
Ok, mais alors du coup, avec la fin de la conscription et l'obtention du statut d'objecteur de conscience, qu'est devenu l'antimilitarisme en France?
Ben, il n'y a plus grand-chose, hein. C'est faut dire franchement, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il reste des groupes pacifistes, donc je disais l'Union pacifiste, ou le mouvement de la paix, c'est qui était anciennement lié au Parti communiste. des mouvements comme ça, donc ils vont réagir contre la guerre en Afghanistan, contre des divers trucs. Mais il n'y a plus de mouvements qui remet en cause vraiment l'armée en tant qu'institution, à part quelques petits groupes comme le COT, là, qui est donc...
Le COT, c'est le collectif des objecteurs tarnés,
voilà.
C'est ça, hein, qui est un collectif qui a lutté pour l'objection de conscience et qui a soutenu les luttes d'objecteurs. Et qui a continué malgré la
oui,
la
mais parce que
service.
Parce que c'était dès l'origine, dès leur création, c'était un vrai groupe antimilitariste, même si leur front principal c'était la lutte contre la conscription. Mais ils ont toujours eu, et c'est certainement pour ça qu'ils existent toujours à l'heure actuelle, c'est qu'ils se sont créés au tout début des années 80. Et sur la question donc de copains qui voulaient pas aller à l'armée et qui avaient besoin d'un soutien, quoi. Et, mais de suite, ils sont attaqués à la question de l'armement. Donc, ils ont toujours eu une vision plus large de la lutte, ce qui fait qu'ils existent toujours. Donc, comme c'est dans le Tarn, c'est une association départementale, ils ne peuvent pas lutter sur trop de choses. Hein, mais les luttes qu'ils ont menées ces dernières années, en dehors de... Bon, il y a la lutte contre les industries de l'armement. Le soutien aux réfugiés tchétchènes, la lutte contre l'intervention russe en Tchétchénie et le soutien aux Tchétchènes, parce que dans le département il y a des Tchétchènes, c'est un peu le hasard qui a fait aussi ces choses-là. Voilà quoi. Et dans les années 80 par exemple, bon là c'était encore la conscription, ils ont été un peu le moteur de la lutte contre les protocoles armés éducation, qui était une tentative du socialistes de faire entrer l'armée dans les écoles. Donc ils ont été un des animateurs c'était un grand collectif national, mais ils ont été un des animateurs les principaux, quoi. Voilà, donc aujourd'hui ils continuent, le dernier truc, donc c'est pas facile, hein, mais le dernier truc, un des derniers trucs qu'ils ont fait, c'est donc de sortir un bouquin Un monde opale, les nouveaux visages de la militarisation. Donc c'est écrit par des militants et des militantes qui parlent de quelques aspects de nouveaux visages de la militarisation. C'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure en commençant, quoi. C'est un peu ça, quoi. Un peu ce qu'il y a dans le dossier d'offensive. Donc le CIMS, la lutte contre le terrorisme. Il continue à la fois un peu sur des actions, à la fois un peu sur de la réflexion. Il participe à la lutte contre le nouveau missile M51, le nouveau missile nucléaire qui est testé à Biscarrosse dans les Landes. Donc voilà, par rapport aux luttes du moment, ils sont toujours actifs. Voilà, après ailleurs, en France, à part les organisations politiques, effectivement, les organisations anarchistes en particulier, sont toujours engagées sur ce terrain-là, mais c'est un de leurs combats parmi tant d'autres. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se font dans le domaine, hein, en dehors souvent du coup par coup, quand il y a une guerre, quand il y a une intervention militaire, donc il y a un peu un sursaut sur ce cas précis. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'antimilitarisme de masse en France, ça fait longtemps qu'il a du plomb dans l'aile. Hein.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Vous venez d'écouter Boris Vian avec la Java des bombes atomiques, et tout de suite nous retrouvons Hervé, notre invité.
Par contre, si on sort un peu de l'Hexagone, on se rend compte qu'il y a quand même des pays, notamment en Europe, on peut parler d'Italie par exemple, il y a des luttes importantes contre des bases militaires américaines, l'implantation de l'armée américaine sur le territoire. Il y a eu des luttes très importantes aussi en Allemagne, mais ça c'était l'époque des euromissiles, des Pershing, etc. Donc qui était l'implantation de missiles américains pour faire un bouclier contre l'Union soviétique. Donc ça fait un peu long feu, mais c'est aussi tous ces endroits où il y a des bases militaires américaines qui sont installées en Europe, donc où il y a encore de fortes luttes antimilitaristes. Tu peux faire un petit peu un retour sur les luttes aujourd'hui, par exemple en Italie, contre les bases américaines.
On peut commencer par un exemple de vrai antimilitarisme de masse, c'est les années 80 en Espagne, dû au fait de l'histoire particulière du pays, du coup d'état militaire. C'est pas que au Pays Basque, c'était dans tout le MOC espagnol, c'était un énorme mouvement.
Le MOC, c'est le mouvement des objecteurs de conscience.
Voilà, il y a eu un énorme impact, c'est des dizaines de milliers d'objecteurs, de déserteurs, quoi, en fait, d'insoumis plutôt, s'il n'y allait pas de.
Dans les années 90.
Ouais, 80, 90. Après, le mouvement était tellement massif qu'ils ont aboli la conscription rapidos, qui était soutenue par plein de gens. Alors, effectivement, aux Pays-Bas espagnols, le taux de jeunes qui ne faisaient pas l'armée était entre 80 et 90%, quoi. D'accord. Pour dire que c'était vraiment de masse. Et effectivement, en Pays Basque, c'était aussi pour des raisons
identitaires,
nationalistes. Parce que beaucoup, ils disaient, on veut bien faire l'armée, mais l'armée basque. Donc voilà, ça, c'est un exemple assez récent de mouvement antimilitariste vraiment massif, et puis qui avait des liens avec des syndicats, qui a participé à la lutte contre les bases américaines, enfin les bases de l'OTAN dans les années 80 et tout ça. Voilà, alors pour revenir à tout plus récent à l'Italie, donc en Italie, c'est plus limité à la militarisation par les bases étrangères, donc celles des États-Unis. Et donc, c'est un point d'appui important, l'Italie, pour l'armée des États-Unis. Et ça l'est devenu encore plus depuis la fin de l'Union soviétique, puisque l'importance stratégique de l'Allemagne est moins importante. Par contre, comme maintenant ils interviennent au Moyen-Orient, en Afrique, d'avoir un accès sur la Méditerranée, c'est important. Donc, il y a un développement des bases américaines en Italie. Et qu'il y a eu de grosses luttes ces dernières années, en particulier en Sardaigne, où là encore la question nationaliste a joué aussi un rôle, le fait que. Alors, parce qu'en Sardaigne, ils sont contre les bases américaines et italiennes. Et donc, il s'est battu contre une base de sous-marins nucléaires américains. En fait, c'est pas une base, c'est. C'est un endroit où ils peuvent s'arrêter pour se faire les réparations, changer le carburant nucléaire, c'est des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc une sorte de garage, un garage qui était situé au nord de la Sardaigne, à 15 km de Bonifacio, le sud de la Corse, et en pleine réserve naturelle régionale. Donc ça faisait beaucoup, et donc la base a été ouverte au début des années 70, il y a eu un grand mouvement pendant les 20 premières années, les années 70-80. Après, ça a eu une lassitude, un coup de. Enfin, ça s'est calmé et c'est reparti à fond au début des années 2000 suite à un accident d'un sous-marin. Donc c'est des sous-marins à propulsion nucléaire et il s'est échoué. Donc c'est reparti en Sardaigne et en Corse. Et ils ont gagné. La base va être fermée. Elle est fermée, ça y est. Elle a été fermée en 2007. Donc voilà, ça c'est une histoire victorieuse. Après, il y a la base d'Aviano dans le nord-est de l'Italie. Là, c'est une base d'aviation qui a participé au bombardement sur des guerres de l'ex-Yougoslavie en 95, en 99, et où il y a un mouvement qui, depuis, demande la fermeture complète de la base, qui n'est pas loin d'être la majorité de la population. La plupart de la population, ce qu'ils demandent, c'est plus des arrangements. Ils ne remettent pas forcément en cause la base, mais qu'ils ne volent pas la nuit, qu'ils fassent plus attention parce qu'il y a plein d'accidents. Par exemple, c'est de la base d'Aviano qui a eu l'accident de Cavalese, et c'était en 97, je crois, donc juste un peu avant la guerre du Kosovo, où un avion qui a décollé de la base d'Aviano, donc c'est près des Alpes, il est monté dans les Alpes, et en passant, il faisait du vol à basse altitude, il a coupé le fil d'un téléphérique. Il y avait donc une cabine qui passait à ce moment-là, avec 20 touristes dedans. La cabine, elle est tombée, une chute de 70 mètres de haut, ils sont tous morts dedans, quoi. Donc il y a des vrais risques, ou des hélicoptères qui s'écrasent. Dans les avions et les réactions de combat, il y a des additifs qui sont mis dans le carburant, qui sont des trucs hautement toxiques, donc il y a un développement de cancer dans tout autour de la région d'Aviano, y compris parmi les personnels militaires qui sont les premiers touchés, hein, mais bon, personne n'est obligé de s'engager. Voilà, donc Aviano, c'est une lutte qui est dans la durée, hein, puisque ça, la base est vieille, mais le mouvement, il est parti vraiment dans les années 95, suite à un projet d'agrandissement, quoi. Et le dernier grand mouvement vraiment super surprenant, c'est à Vicenza. C'est toujours dans le nord-est, c'est pas loin de Venise. Et là, c'est pareil, c'est un peu comme Aviano, à part que c'est des soldats, enfin, c'est pas des aviateurs. Et la base est ancienne, et bon, Vicenza, c'est une ville de droite à fond et tout. Et ça posait pas de problème, et ils ont fait un projet d'agrandir la base, et là brusquement une révolte populaire que personne ne s'attendait dans une ville de droite, dans une région de droite, et un vrai mouvement auto-organisé où les partis politiques et tout ça, ils participent, mais ils n'ont pas réussi encore à prendre la main sur le mouvement, qui est un truc vraiment très très dynamique, très populaire, avec plein d'actions, plein de petits trucs. Ils alternent des petites actions quotidiennes, faire signer les pétitions, ils font des boycotts de certaines entreprises qui participent au chantier, et des actions plus coup de poing, d'intervention sur un chantier, à se bloquer avec des trucs un peu comme les Allemands quand ils veulent bloquer les convois de train qui transportent des déchets nucléaires, là, avec des gants en béton, ils s'attachent, ils s'allongent devant les trucs, ou des sabotages. Et une fois tous les 6 mois, une grande manif nationale. Enfin, ils sont vraiment très inventifs. Et pour l'instant, donc, c'est parti en 2007, je crois, si je me rappelle bien. Et pour l'instant, ça tient toujours.
Qu'est-ce qui gêne les gens, là ?
C'est difficile à dire, mais moi ce que je ressens, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est vraiment, jusqu'à présent, il s'était fait à la présence des soldats américains, alors que bon, c'est pas toujours joyeux le samedi soir quand ils sortent dans les bistrots, il y a souvent des bastons, enfin, il y a tout un tas de problèmes de base militaire, hein. Ça pose toujours des problèmes de sécurité, les accidents de voiture, tant qu'ils déboulent un camion à fond, enfin bref. Mais ils acceptaient, il y avait des retombées économiques, toujours ce qu'on dit, toujours, tu vois, pour imposer des projets à la con, quoi. Et puis là, on leur plante une nouvelle base en plus, dans le dernier lieu, c'est en plein dans la ville, mais c'était le dernier lieu un peu vert, c'est un petit aéroport régional pour le vol à voile ou les trucs comme ça. Donc c'était la dernière zone verte de la ville. Et ils vont balancer des troupes de choc, c'est des troupes de combat qui, par exemple, c'est eux qui sont allés faire des manœuvres en juillet, en Géorgie, tu vois, pour entrer. Le CETAF, ça s'appelle. Le CETAF, par exemple, ils ont eu le commandement d'une région militaire en Afghanistan ces dernières années. C'est ces troupes-là qui sont basées là, à Vicence. C'est vraiment le corps expéditionnaire par excellence, quoi. plus c'est long, puisqu'il y a tous les trous d'infrastructure, ça va pomper de l'eau, mais énormément, donc c'est toujours un problème. Il va falloir tirer des lignes à haute tension, parce que les militaires, l'électricité leur en faut. Enfin, il va leur falloir construire des routes, c'est un énorme chantier qui est en grande partie payé par l'État italien. Qui apporte rien, qui apporte que des nuisances, il va y avoir encore plus de circulation, de bagnoles, de convois militaires. Enfin, et il y a eu vraiment un ras-le-bol, et c'est assez incroyable que dans cette ville, une grosse majorité de la population est contre le projet.
Très bien, mais Hervé, merci. Et si on veut s'engager à agir contre le militarisme en France, aujourd'hui, où peut-on s'adresser en dehors, évidemment, des groupes libertaires, des organisations anarchistes, la revue Silence peut-être qui propose une vision pacifiste et
Silence c'est qu'une revue quoi, c'est pas un mouvement. Il y a donc l'Union pacifiste, Silence, les libertaires, après moi je pense que ce qu'il y a peut-être de plus important c'est d'essayer de se tenir au courant de ce qui se passe et d'être en capacité d'agir sur les actions qui sont proposées. Là, en ce moment, en France, c'est à mon avis une des luttes importantes qu'il y a en ce moment. C'est la lutte contre le missile M51, donc ça touche vachement à l'arme nucléaire. Et c'est une lutte assez large, ça va du Parti communiste à Greenpeace, en passant par des libertaires, des écolos, enfin, il y a plein de trucs. C'est une lutte intéressante, à mon avis, importante à mener. Ça remet pas tout en cause, mais en tout cas, ça bloque, ça peut empêcher une des pires conneries. Enfin, l'arme nucléaire, c'est quand même le sommet de la connerie militaire, quoi. Mmh. C'est être prêt à détruire la planète entière pour y a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants. Bref. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est à mon avis, surtout en ce moment, il faut mettre le paquet pour qu'on se tire d'Afghanistan, quoi, pour que les troupes françaises aient pris bagage et ça soit fini, quoi. C'est important. Donc je sais qu'il doit y avoir des manifs, là, quelques manifs d'ici la fin septembre, au moins à Paris, je crois, le 20 septembre. Je ne suis pas sûr. Voilà, il faut participer à des choses comme ça, quand il y en a près de chez soi, essayer de voir ce qu'on peut faire. Et après, aussi par rapport à la France, c'est important tout ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire l'exploitation politico-économico-mafieuse de l'Afrique par des intérêts français. Elle repose aussi sur le militarisme, donc en s'attaquant à la présence militaire française en Afrique, on s'attaque aussi à une des causes des dictatures dans les pays d'Afrique francophone et de la misère aussi dans les pays d'Afrique francophone. C'est pas une des seules causes, mais ça y contribue aussi, quoi. Voilà. Moi, je pense que plutôt que de chercher un mouvement qui va tout prendre en compte et qui, de toute façon, n'existe pas au niveau national en France, plutôt s'engager au coup par coup sur des luttes qui peuvent être importantes et qui peuvent être victorieuses aussi.
Et merci Hervé. Enfin, en tout cas, on ne peut que vous conseiller à tous de lire l'excellent dossier sur Foutez-nous la paix, donc sur l'antimilitarisme, du numéro 19 de la revue Offensive, disponible en kiosque, où vous trouverez bien développé toutes ces informations-là, et y compris un certain nombre de conseils pour agir ou de lecture, etc., pour approfondir la question. À bientôt, Hervé.
Ben merci, au revoir.
À la réussite. Ciao.
Ciao.
Offensive sonore s'achève. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le troisième samedi de chaque mois à 11h et rediffusée le premier mardi à 10h. Sur le site de La Grenouille, retrouvez les podcasts de nos émissions et toutes les informations consacrées à la revue Offensive. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain.